Radio G 101.5 FM.
Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bonsoir et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Seb.
Salut Seb.
Alors ce soir, nous recevons deux invités qui correspondent exactement à tes champs de compétences.
Oui.
L'histoire et la bande dessinée.
Alors moi je préviens tout de suite, j'ai pas très bien préparé mon truc.
Non, c'est faux. En plus, il ment parce qu'il prépare toujours très très bien.
Alors,
nous recevons Jean-Claude Bauer et Julien Moka. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, avant de démarrer l'émission avec de la musique et des chroniques, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour nos auditeurs ?
Eh bien, Julien Moka, scénariste pour Jean-Claude Bauer ce soir.
Jean-Claude Bauer, dessinateur pour Julien Moka ce soir.
C'est bien, c'est efficace.
C'est efficace, c'est simple, efficace.
On nous a demandé de faire court.
Ah mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. Très bien. On va essayer de creuser un petit peu tout ça après, justement.
Alors, après une chanson d'Alain Souchon.
Ah, super.
Voilà, on a une demande de Julien. On va écouter Somerset Maugham d'Alain Souchon dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait peur.
On somnolait chez nous comme ça, dans notre jungle, le calme plat. Il a déboulé dans le soir en disant mes mâles sont encore au port. Moi j'étais largué, classé, elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Ils sont faits pour deux, ces bambous. Trois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumée Navy Cut, claquée des tirelis. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux, ça me faisait souffrir. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Je voudrais qu'il s'en aille. Toi je l'ai, avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau. Ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle, malheureux comme tout. De Somerset Maugham. Les capitaines beaux, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette. Sur notre canapé, allez Somerset ailleurs, casser les autres cœurs, des autres fiancés, comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham.
Voilà, c'était Alain Souchon avec Somerset Maugham dans le top 3 de Julien Moka.
Et on a tapé juste, hein, franchement, comme à chaque fois.
Donc ce soir, nous recevons Jean-Claude Bauer et Julien Moka pour la bande dessinée Angers, de Domnacus au Roi René. Seb, je te laisse la parole.
Eh bien oui, tout à fait. Donc Angers, de Domnacus au Roi René, aux éditions Petit à Petit. Hein, vous le trouvez à peu près partout. Moi, je sais que là où je l'ai commandé, ils avaient fait une commande. Donc en clair, ça a l'air de bien partir, ça a l'air de bien fonctionner quand même.
Ça marche bien sur Angers, ouais, ça cartonne. Il y a du réassort un peu partout parce que les premières commandes qui avaient été faites par les libraires ont déjà trouvé preneur. Donc on est super content, ouais.
Ah oui, non. Alors... on va commencer tout de suite. Première question, vraiment très très compliquée. Quelle est la genèse de ce projet, finalement, de cette BD?
Ouais, alors en fait, Angers de Domnacus au Roi René, c'est une bande dessinée qui trouve sa place dans une collection de docu-BD sur les villes. L'éditeur avait déjà sévi, en fait, d'abord en Normandie, d'où il est originaire, puis sur Nantes, où il a migré, puis un petit peu partout.
Enfin, il est arrivé dans une belle ville, la ville d'Angers, c'est ça?
Tout à fait. Alors, on me montre l'album de Bordeaux, donc oui. A priori, je dois dire Bordeaux tout de suite.
Oui, c'est pour Florence.
Pour Florence. Bonjour, Florence. Parce que autrement, on va se faire...
Voilà. Non, j'ai collaboré dans Bordeaux aussi.
Tu as collaboré à Bordeaux?
Collaborer à Bordeaux, c'est joli, ça. C'est joli. En quelle année, mon petit monsieur?
Pour les auditeurs, c'est une blague d'historien.
Oui, alors, la blague d'historien... Bon, on enchaînera plus tard avec ça.
Donc le petit à petit est arrivé, en fait, voulait faire une bande dessinée sur Angers. Ils se sont donc retournés vers le festival BD d'Angers. Ils leur ont demandé s'ils connaissaient un scénariste qui pourrait être intéressé. Et comme je suis un ancien organisateur du festival, que j'ai commis quelques bandes dessinées et que je suis historien de formation comme certains autour de cette table, eh bien... voilà, je suis arrivé dans la boucle.
Dans la boucle. Et le projet est parti comme ça, gentiment. Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, Angers, donc, de Domnacus jusqu'au Roi René, c'est une série, entre guillemets, de courtes petites histoires.
Hein, c'est ça, on parle de... Il y a 9 séquences.
9 séquences.
9 séquences où il y a en fait 5 pages de bande dessinée et puis 3 pages de documentaire. Une première page introductive et puis après une double page dans laquelle on va retrouver les mots de François Comte, qui est l'archéologue de la ville d'Angers, conservateur au musée d'histoire, au musée des Beaux-Arts, pardon, et qui était mon prof à la fac. Voilà.
Donc, le monde est petit.
Le monde est petit, et donc là, autant dire qu'au point de vue historique, on a quelque chose de relativement pointu.
C'est ça, c'est-à-dire que quand j'écrivais mes scénarios, j'avais un garde-fou qui était là avec sa mitraillette, comme certaines personnes à Bordeaux en 1940 qui collaboraient. Et,
ça, c'est fait.
Pas grave. Moi, j'ai rien à me reprocher par rapport à ça.
Et donc voilà, effectivement, l'idée, c'est vraiment, enfin, l'objectif pour moi de cet album, il est double. Ça va être de faire entrer les lecteurs de bande dessinée dans l'histoire d'Angers et les gens qui sont férus d'histoire dans le monde de la bande dessinée.
Oui. C'est vrai qu'actuellement, c'est une véritable mode aussi de voir beaucoup de bandes dessinées qui ont un thème historique ou qui se raccrochent à de l'histoire, voire même des uchronies. Alors ça a été une grande période, même si ça continue encore. Mais c'est vrai que c'est un moyen d'entrer dans l'histoire, justement par ce vecteur qui est quand même extrêmement attractif. Donc une autre question. Alors, 9 petites
histoires.
9 petites histoires, mais aussi 8 dessinateurs différents.
Même 9.
Neuf.
Ah oui. Alors, non, il y a bien 8 dessinateurs dans la bande dessinée.
Oui, voilà, c'est ça.
Fanch, ouais, je te voyais raconter.
Oui. J'étais en train de me dire, mince.
Fanch Juto fait bien deux récits. En revanche, si vous faites attention, la couverture est dessinée par un 9e dessinateur qui est Olivier Martin, qui est aussi un Angevin, parce que une des caractéristiques de cet album, c'est que tout le monde habite le Maine-et-Loire ou du moins y a vécu pendant très longtemps, mis à part Thierry Jollet, le premier dessinateur, mais qui est un voisin puisqu'il habite Langeais.
D'accord, oui. C'est à côté, c'est tout à fait à côté. Alors tu as répondu presque à ma question aussi, c'est comment vous avez réuni toute cette équipe et comment travailler justement avec les dessinateurs comme ça, parce que chacun veut peut-être faire Comment c'est organisé finalement le travail de conception ?
Parce que si tout le monde veut travailler sur la même période,
oui,
c'est compliqué.
Ça va être compliqué.
Non, mais je pense que ça, c'est un travail d'éditeur avant tout. Enfin, je pense que là, c'est l'éditrice qui a géré ça et qui a sans doute choisi les gens en fonction de leur lieu d'habitation. Quoi. Enfin, pour moi, c'était le cas, parce que je ne suis pas aussi angevin que ça.
C'est oui, ça. Mais angevin de cœur maintenant. Mais
angevin de cœur. Et Choletais aussi, un petit peu.
Et la répartition finalement, parce qu'on a un thème qui commence donc vraiment sur l'Antiquité, sur la période gauloise avec Domnincus. Comment vous avez choisi, comment vous êtes réparti finalement là
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette bande dessinée, on l'a dit, le sous-titre, c'est de Dumnacus Warone. Donc là, on est sur le premier tome, oui. Et il y aura donc deux tomes.
Voilà.
Et avant de commencer l'écriture même de ce premier tome, avec François, donc l'archéologue, on a travaillé et on a fait en fait le squelette des deux albums, parce qu'on voulait qu'il y ait une unité, enfin que ça soit cohérent. Et donc, on sait déjà jusqu'où on va aller. Et donc, on a dû faire, on a fait des choix. Et une fois effectivement qu'on avait défini ces neuf thématiques, moi j'ai commencé effectivement par écrire les neuf scénarios. Pendant que j'écrivais les neuf scénarios, on a fait un tour de table pour voir quels étaient les dessinateurs qui habitaient dans le coin. Et puis après, on a proposé les scénarios. Alors, certes, effectivement, on a choisi les dessinateurs avec lesquels on voulait travailler, mais les dessinateurs ont aussi choisi un petit peu sur quelle période ils voulaient travailler. Par exemple, il y en a qui m'ont dit « Bah non, tiens, ton scénario, là, il ne m'intéresse pas plus que ça parce que je suis pas... Enfin, l'histoire antique ne m'intéresse pas. » Par exemple, Jean-Claude, lui, avait super envie de travailler sur la période antique.
Exactement, oui, c'est ça, oui. Non, pas tout à fait, mais bon, c'est pas... Non, mais j'ai pas eu le choix, moi, mais c'est pas grave. C'est un bon entraînement et puis ça ne me dérange pas de toute façon.
On peut signaler aux auditeurs que Jean-Claude a travaillé sur la période d'Antiquité et surtout sur les adorateurs de Mithra.
Voilà, exactement.
Oui, c'est vrai, on va y venir, deux, trois petites questions sur le culte de Mithra. On ne va pas trop creuser parce que finalement, sur Mithra, enfin bref, on verra ça tout à l'heure.
Non, moi, je ne suis pas historien, donc je ne pourrais pas répondre.
Non, mais il y aura des questions sur le travail du dessinateur.
Ah, sur le travail du dessinateur, okay. Hein, tout à fait.
Okay.
Et puis après, sur la façon de travailler entre scénariste et dessinateur, ça diffère complètement. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui vont prendre le scénario tel quel. Moi, dans la façon dont je travaille, je découpe en fait case par case. Alors, ça ne veut pas dire que le dessinateur va faire exactement le découpage que j'avais envisagé. Mais justement, certains vont se dire « bon, bah, ça me convient, ils vont faire ça comme ça ». Et puis d'autres vont avoir un œil plus critique parce que moi, clairement, je ne suis pas dessinateur. C'est-à-dire que je l'imagine d'une façon, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. En tout cas, moi, je donne un canevas et je préfère même quand ce canevas est détricoté. Pardon. Et par exemple, dans notre façon de travailler avec Jean-Claude, il avait à peine reçu le scénario qu'il m'a appelé pour en discuter. Certains, ça va être par mail, d'autres par téléphone, d'autres qui vont finalement pas communiquer, qui vont juste rendre leur storyboard et puis à ce moment-là seulement commencer à échanger. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a neuf chapitres et ça a été neuf façons de travailler.
Oui, et ça nous donne aussi neuf réalisations qui sont totalement différentes et qui permettent d'appréhender des choses totalement différentes aussi en même temps, même s'il y a un fil conducteur.
Alors, il y a un fil conducteur, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que il y a certains albums de la collection, c'est peut-être le cas d'ailleurs sur Bordeaux, où on a un seul coloriste qui vient travailler et qui vient faire toutes les mises en couleur pour donner une uniformité en fait à l'album. Et là, c'est pas le choix qui a été fait sur Angers, parce qu'en fait, dès le départ, on s'est rendu compte que les univers graphiques des dessinateurs étaient vraiment très différents et que malgré une colorisation, si on avait une colorisation uniforme, ça ne l'aurait pas fait. Donc on s'est plutôt dit, bon bah, il y a des univers graphiques très différents, bah, on va jouer cette carte-là, chacun a son univers et donc chacun peut faire sa colorisation s'il le souhaite. Pour avoir la main de A à Z sur son histoire s'il le souhaitait, en tout cas.
C'est vrai que ça donne quelque chose en tant que lecteur quand on regarde, voilà. On n'a pas le temps de s'habituer à un style Et ça permet de percevoir l'histoire totalement différente. Donc du coup, on va accrocher différemment à l'histoire. Mais de toute façon, on a toujours ce fil directeur à l'intérieur. Et je laisse les auditeurs et les futurs auteurs, justement, lecteurs, découvrir ce fil directeur. Moi, j'ai fini par le comprendre ce soir. J'avais compris quand même l'objet. Mais la symbolique de l'objet, là, j'avoue que je l'ai vu là, ce soir avec Jean-Claude qui m'a fait une petite dédicace. Hein, j'en ai profité. Oui. Et donc là je trouve ça magnifique. Quoi.
D'ailleurs, comme on est en direct, ceux qui veulent une dédicace peuvent venir,
venir en direct. Oui, oui.
Rue d'Arame.
Faut qu'ils se dépêchent, pas trop nombreux, s'il vous plaît, quand même.
Je vous propose une petite pause musicale et oui, puis on continue plaisir. L'interview oui. juste après. Après, alors, Herbie Hancock, un petit peu de
oui,
jazz.
Oui, très bien.
C'est pas mal.
Très, très bien.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Là, c'était Herbie Hancock avec Break Down the Birds dans Band Geek Mafia. Mm-hmm. Seb, nous recevons ce soir toujours Jean-Claude Bauer et Julien Moka pour la bande dessinée Angers de Demnacius au Roi René.
Tout à fait, tout à fait. Là, vous voyez, même pendant la musique, on continue un petit peu le débat là, sur finalement la réalisation, la conception justement de cet album. Donc 9 dessinateurs, un scénariste qui a proposé donc, un scénario à ces 9 dessinateurs. Les 9 dessinateurs se sont réunis, ils ont
pas
fait une battle. Non,
non
ils ont...
pas du tout.
Et il ne faut pas oublier François Comte, l'archéologue qui
l'archéologue,
signe
oui,
la page documentaire.
Bien sûr, hein, il faut...
Tout à fait.
S'il si écoute, je voudrais pas qu'elle la sorte.
Non, 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 non. Non, mais il attend juste avec. donc voilà. Donc une question. Est-ce que ça est... combien de temps finalement il a fallu pour concevoir la totalité de cet album pour le.
Alors sur le scénario, enfin entre la première prise de contact, l'élaboration de ce que j'appelle le squelette du diptyque, puisqu'on a vraiment, comme je le disais, pensé deux albums, et puis la rédaction, la réflexion, enfin tout le travail de scénario, il y en a pour 7-8 mois. Ouais.
7-8 mois, d'accord.
Parce pour qu'il y a des deux, Thomas. On est d'accord.
Non, juste le premier.
Ah oui,
temps, ouais.
D'accord.
Parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours avec François Comte, l'archéologue, et puis il y avait aussi l'éditrice Karine Parquet, dont il faut parler, qui s'implique énormément aussi dans les albums. Et alors je le souligne parce que c'est super rare qu'un éditeur s'implique autant dans un album. Et donc ça pouvait être pesant parfois entre François Comte et puis Karine qui donnaient chacun leur point de vue sur les scénarios, mais qui n'étaient pas forcément d'accord, et moi qui me retrouvais au centre. Mais au moins, cet album a été vraiment super travaillé. Non. Et puis après, y a les dessinateurs qui font leur boulot. Et là, Jean-Claude Sébastien Bauer va pouvoir
c'est
répondre.
C'est ça, oui, Jean-Claude Sébastien Bauer. Bah,
justement,
on a décidé qu'on s'appellerait tous
Sébastien ce soir.
D'ailleurs, pour compléter, donc, pour toi Jean-Claude, combien de temps pour dessiner
J'ai mis moins de temps que Julien, ça c'est évident, mais j'avais que 5 pages à faire, j'ai dû mettre peut-être 2 mois quand même, parce que là aussi c'est pareil, il y a un travail de story au départ, un storyboard, et c'est bien le storyboard parce que ça permet de mettre en place les écrits du scénariste et de voir si ça tient la route ou si c'est efficace ou ça fonctionne, quoi, je veux dire. Et
ça fonctionnait donc, ou pas?
Oui, oui, ça fonctionnait. La preuve, c'est que j'ai réussi à. Non, non, mais alors après, il y a ce qui est ennuyeux, oui et non, mais c'est, on comprend pourquoi, c'est d'avoir affaire à différents intervenants. C'est-à-dire, il y a l'historien, il y a le scénariste, il y a l'éditeur. Et puis tout ça doit être d'accord, quoi, je veux dire. Et parfois, on a été confronté à des, bah,
Vas-y. D'autant plus que toi, sur les parties antiques, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'archéologue François Comte est un médiéviste. Il a donc donné son point de vue. Et puis, il avait aussi demandé, pour être complet, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, le point de vue d'archéologues spécialistes d'antiquité qui sont en plus venus donner leur point de vue. Donc là, effectivement, j'avoue que pour Jean-Claude qui attendait...
C'est pas grave, parce que j'ai déjà eu affaire dans d'autres circonstances, de travailler avec des ingénieurs, avec des gens comme ça qui doivent donner leur avis, leur aval sur ce qu'on fait. Je veux dire, c'est normal. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, quoi. Et donc
une certaine pression.
Oui, il y a une pression. Bon, c'est pas non plus.
Il y a une pression parce qu'on s'implique aussi.
Oui, on s'implique, bah oui, évidemment. Donc il y a une pression, mais elle est légitime, cette pression. Je veux dire, on peut pas faire tout.
Oui,
et
c'est pour aller
pas.
Vers plus de vérité,
voilà,
historique.
Exactement.
Enfin, c'est quelque chose de remarquable parce qu'à la rigueur, moi, je suis sur tout l'album. Enfin, c'est mon bébé. Enfin, voilà. Mais comme le dit Jean-Claude Sébastien, il
de
n'a
Bordeaux.
Fait
ouais.
De Bordeaux.
Ouais, le collabo de Bordeaux, c'est surprenant. Il n'a fait que 5 pages, comme chaque dessinateur. Et pourtant, il y avait une implication réelle. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que, bon, voilà, un dessinateur, il a 5 pages, il fait ses 5 pages et puis basta. Non, là, il y avait un vrai échange une vraie implication. Et c'est vraiment à noter.
Bah, je trouve que c'est important. Moi, je ne peux pas concevoir de travailler avec quelqu'un sans le connaître ou sans le rencontrer ou sans parler avec lui. Ce n'est pas possible. Je veux dire, oui.
Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre.
Non,
juste pour faire un petit signe pour prendre la parole après.
Oui, oui.
Est-ce que ces échanges ont influencé ton dessin?
Oh, influencer le graphisme, je sais pas. Enfin, moi, je pense pas. Non,
non,
c'est pas. Non, non, je pense pas.
Il y avait une liberté totale visuellement, quoi.
J'ai pas été bridé. J'ai pas fait la couleur. C'est pas moi qui ai fait la couleur. Je me souviens plus.
Oui, alors attends, je feuillette l'album. C'est... Parce qu'elle n'est pas angevine, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. On a dit qu'on parlait avec des angevins.
Oh,
c'est Julie Poinceau.
Oui.
Voilà.
Oui.
Qui est peut-être nantaise d'ailleurs. Ou bordelaise.
On lui demandera.
Là aussi, c'est pareil parce que c'est surprenant. J'ai pas l'habitude de faire toujours la couleur, ça dépend. Enfin, il y a des moments où je le fais. Et puis, moi, je le fais pas. Et là, pour des questions de rapidité, d'efficacité, il fallait que ce soit. Et c'est toujours surprenant de voir comment parce que l'intervention du coloriste est encore, c'est encore autre chose, quoi. Et c'est pas inintéressant. Alors parfois, on est un peu choqué, quoi.
Parce qu'on n'imaginait pas ça comme ça.
Purée, comment ils ont détruit un peu mon dessin et enfin, parfois, ça nous interpelle. Quoi.
Les dessinateurs sont susceptibles.
Non, mais ça va se demander.
Non, non,
lequel dessin a été.
Non, non, mais c'est vrai que c'est. Mais peut-être que moi, si j'avais dû faire la couleur, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Quoi. Je veux dire, c'est ça que
c'est
je veux
sûr
dire.
Même.
Et mais c'est même certain. Et la technique.
Non, mais ça veut pas dire que ça aurait été mieux ou moins
bien.
Non,
c'est
non,
non,
très
ça aurait
personnel.
Été différent.
C'est très personnel, oui.
Donc il y a un cadre historique très précis. Par contre, une grande liberté d'interprétation de dessin.
Graphique, la preuve, oui.
Une liberté dans la mise en scène, bien évidemment.
Aussi, oui.
En revanche, en fait, les décors
sont de Roger Hart.
non, non.
Les costumes de Donald Cordwell.
C'est-à-dire qu'il y a une liberté, mais qui est très cadrée. C'est,
oui, c'est
justement
ça.
Ça faisait partie des.
On est libre dans un cadre, en fait.
Voilà, exactement.
Ouais. On a quelques contraintes quand même. La réalisation graphique, elle est ce qu'elle est, mais on a la contrainte du format, de la police de caractère pour les bulles, et les bulles, la forme des bulles, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment.
Ah oui, c'est vrai.
Pour une cohérence.
Donc là, il y a une espèce de cohérence. Ouais. Enfin, c'est peut-être la seule chose qui soit... qui rend l'histoire... comment dire, qui est une unité dans l'ensemble, quoi, je veux dire. C'est ça qui...
Avec notre fil conducteur, quand
avec
même.
Avec le fil conducteur, mais je ne veux pas
le
dévoiler. Bon, je ne veux pas le dévoiler.
Ça, c'est mystérieux, ça va
faire mystérieux, ça va obliger. Alors, donc, si on calcule bien... combien déjà, pour rappelle-nous, le temps pour la
construction 7 mois. En tout, l'album, il y a un an de travail, grosso modo.
Un an de travail,
oui.
Oui, parce qu'en plus, il y a le travail des coloristes auquel il faut rajouter aussi.
Oui,
en
qui,
même temps,
vient après le dessin.
Donc, quoi. Un an pour ce premier tome. Et donc, là, je suppose que le deuxième tome est en route. Moi, je suis impatient.
On commence à se faire des bisous avec François. On n'a pas encore mis la petite graine. non.
Il va être content.
Les enfants sortaient.
C'est métaphorique.
En fait, l'idée, c'est de sortir le deuxième tome dans 2 ans. Et donc là, justement, de pouvoir travailler sereinement sur ce deuxième tome.
D'accord.
Donc, c'est long, attendre. 2 ans. Hein,
c'est long, oui. Pour,
je trouve, pour la deuxième.
Pour les lecteurs, c'est long, c'est ça.
Ça dépend de quoi on parle. Mais,
oui.
Oui. Oui.
Pour accoucher, oui, c'est long.
Il y a d'autres projets entre-temps, j'imagine.
Il y a peut-être d'autres projets.
On en parlera après une petite pause musicale, Seb.
Oui, merci, Seb.
C'est bien de ponctuer... l'émission de petite pause musicale, on sait que nos auditeurs adorent ça. On va écouter Freak Power dans Band Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
That you've gone beyond a reasonable doubt. We'll be right back.
Voilà, vous êtes bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Ce soir, nous recevons Jean-Claude Bauer et Julien Moka pour la BD Angers de Domnacus au Roi René aux éditions Petit à Petit.
Dans le rythme.
À toi, Seb.
Oui. Alors, on va arriver là sur une question qui va fâcher tout le monde là autour de la table. Pourquoi le culte de Mitra?
Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas?
Voilà.
Moi, j'attaque directement. Là,
c'est une très bonne question.
On va pas limiter la BD à ça. Quand même.
Non, on va pas limiter la BD à
c'est
ça.
C'est l'intervention de Jean-Claude.
C'est l'intervention de Jean-Claude. Disons que voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question parce que Mitra, sincèrement, avant d'avoir lire la bande dessinée, moi personnellement,
oui. J'avais étudié ça à l'université.
Oui. Mais... j'avais oublié moi à l'université. J'avais dû sauter cours là.
Pourquoi Mitra? Eh bien, en fait, tout simplement parce que il y a quelques années, au début des années 2000, quand il y a eu des travaux dans le secteur de la gare, on a retrouvé en fait ce temple de Mitra, qui est donc un temple assez remarquable aujourd'hui, un des plus remarquables qu'on ait connu. Et donc, il nous paraissait primordial avec François Comte d'avoir un chapitre complet sur ce mythe. Et donc, on a fait appel au plus grand dessinateur qu'on connaissait, lui comme moi, Jean-Claude Sébastien Bauer.
C'est gentil.
On attendait un peu plus.
Grand
là,
par
en fait.
La taille, surtout, parce que... ouais.
Oui.
Moi, je ne peux pas en dire plus, parce que Mitra, je ne savais pas du tout. Je ne connaissais pas l'histoire non plus du temple de Mitra. Mais d'abord, j'ai beaucoup peiné à trouver de la documentation, à chercher aussi. Ce qui n'est pas évident. C'est plus facile, par exemple, quand on fait des choses un peu moyenâgeuses. Mais là, je veux dire que...
C'est toi qui l'as dessiné? Parce qu'en fait, je ne t'ai pas vu dessiner. Là, je te vois découvrir les planches, ça me fait peur.
Non, ce n'est pas moi, non. C'est... Je ne sais pas qui a dessiné. C'est un grand dessinateur, comme tu dis, Sébastien Bauer.
Alors, on peut dire aux auditeurs que le culte de Mitra aurait influencé le christianisme, ouais, en particulier. Et...
Oui, complètement. Alors, aujourd'hui, moi, je suis pas prof d'histoire, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais de toute façon, le christianisme, religion monothéiste, arrive sur le tard. Avant, il y a eu d'autres religions. Et là, effectivement, sur notamment la date du 25 décembre, il y a plein de choses. Et là, c'est du monothéisme, mais on commence à réduire le nombre de dieux, par exemple, par rapport à ce qui pouvait se passer en Égypte, si on remonte beaucoup plus loin, et on va arriver effectivement progressivement vers le christianisme. Voilà.
Oui, puis c'est un dieu qui était assez adoré par les légions romaines. Enfin, c'est
les légions romaines, ouais. Les marchands aussi en même temps. Alors, est-ce que quelque part aussi, c'est pas montrer aussi la vocation marchande de la ville d'Angers? Comme ça, c'est les questions que je me suis posées en tant que quelqu'un qui aime bien un petit peu l'histoire aussi en même temps, pour montrer un petit peu ses vocations, cette vocation.
Oui, bah alors pour le coup, effectivement, sur la partie Angers-Ville Marchande, c'est un sujet qu'on aborde dans un chapitre suivant, tout à fait. Et puis effectivement, le fait que ça soit un dieu qui soit notamment adoré par les légions et les marchands. C'est des thématiques qu'on va retrouver notamment dans les pages qu'a écrites François Comte, l'archéologue.
Oui, parce qu'il faut aussi dire aux auditeurs qu'en plus des pages de bande dessinée, il y a aussi des documentaires. Il y a aussi des pages documentaires qui viennent enrichir, compléter la lecture.
C'est ça. Et c'est ce qu'on disait en introduction, c'est qu'il y a notamment à la fin de chaque chapitre de BD une double page documentaire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart des documents iconographiques qu'on retrouve en plus des textes, parce que c'est pas des pavés, hein, l'idée c'est d'apprendre beaucoup de choses, mais qu'on prenne aussi plaisir, que ça soit ludique. Et la plupart, en fait, des documents qu'on va retrouver dans ces pages documentaires sont soit en réserve des musées d'Angers, donc je dirais dommage, mais ça permet de découvrir des choses qu'on ne voit pas, ou alors qu'on voit dans les musées d'Angers, et ça permet justement de se dire, quand on va visiter notamment le musée des Beaux-Arts, bah tiens, ça je l'ai vu dans la BD, et ça rend la chose encore plus attrayante, je trouve.
Oui, tout à fait. Et pour avoir donc lu complètement, c'est vrai que ça donne envie soit d'en savoir plus, donc du coup on va chercher de l'information supplémentaire, mais si on n'a pas envie d'en savoir plus, on en sait déjà suffisamment. Alors, je reviens sur le culte de Mitra. Donc, là, j'ai bien compris pour Jean-Claude, ça a été difficile de se documenter. Mais je trouve que dans ce que tu nous disais, ta difficulté d'avoir peu d'informations, finalement, tu donnes beaucoup d'informations. Parce que si on regarde au regard des recherches à l'heure actuelle, le culte de Mitra, c'est un culte qui est donc caché, qui a une initiation. On sait qu'il y a une initiation, on ne sait pas comment ça se passe. Et toi, tu nous proposes une interprétation.
Bien sûr.
Et moi, je trouve ça extrêmement bien joué, quoi.
Oui. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que par exemple, justement, il faut aussi savoir que l'histoire, c'est une science qui est en perpétuelle évolution. On arrive à trouver au fil des nouvelles découvertes archéologiques ou quand on découvre un nouveau texte, des informations nouvelles. Et par exemple, dans mon scénario premier, j'avais prévu qu'on verse sur la tête d'un de mes personnages du sang parce que j'avais trouvé dans un livre d'histoire que c'est comme ça que ça se passait. Et on m'a dit à un moment, un des archéologues de la ville, « Ouh là là, c'est surtout pas comme ça aujourd'hui. Enfin, » Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit « Ouh là là, est peut-être un peu en trop » puisque certes, aujourd'hui, on sait que peut-être que ça se passait pas comme ça, mais il n'empêche que dans ce livre d'histoire fait par un archéologue, j'avais vu que ça se passait comme ça. Donc je dirais, faut toujours faire attention, la vérité historique d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et puis il faut pas oublier aussi ce que me disait souvent un de mes profs de fac, que l'histoire est faite par les vainqueurs et que, voilà, c'est toujours un point de vue, même si c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faut jamais oublier que l'histoire est très subjective.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai que selon les fouilles qui sont faites par les archéologues ou les sources qu'on trouve, les nouvelles sources qui sortent des archives, on peut faire évoluer l'interprétation et la compréhension de l'histoire, en tout cas.
Tout à fait.
Et c'est vrai que là, vous êtes appuyé sur une découverte qui est quand même assez récente, qui a été étudiée récemment et qui, c'est vraiment à la pointe, entre guillemets, de la recherche.
De ce qu'on sait aujourd'hui. Mais peut-être que dans 3 ans,
bien
on
sûr,
va trouver un nouveau mitrium et qu'on se dira non,
finalement. Il y avait du sang de taureau.
Non, c'était du sang de baleine.
Encore plus compliqué. Donc une bande dessinée, c'est presque un livre d'histoire pour moi, finalement. Ça me rappelle aussi en même temps la conception des livres d'histoire que moi j'aimais parcourir quand j'étais plus jeune,
il y a très longtemps.
Non, il y a quelques semaines encore, à peu près, où on avait cette illustration qui permettait de faire voyager l'imaginaire, et puis à côté, justement, ce texte, pas forcément un texte très très approfondi, mais au moins un texte qui contient une vérité et qui permet après de se questionner et puis éventuellement de chercher d'autres choses. Et je retrouve là dans cette bande dessinée vraiment tout ce qui a fait l'attrait pour moi pour cette matière qui est l'histoire. Et je vous en remercie parce que là franchement, honnêtement, je pense que ça va donner le goût à pas mal de gens aussi en même temps.
Je pense.
Et quand je vois, moi, ou quand j'ai été chercher la bande dessinée, quand je vois déjà la pile avoir disparu rapidement, c'est pas parce qu'on est à Angers, je pense que ça aussi, il y a un intérêt. La nouvelle pile est arrivée, les gens se sont presque pas jetés dessus, mais du moins, on prie, on regardait, on feuilletait, et donc du coup, ça va apporter des choses. Et donc,
ça éveille la curiosité.
Ça éveille la curiosité.
Et l'envie d'aller plus loin, peut-être aussi.
J'ai eu un retour du distributeur que j'ai croisé dans une librairie à Cholet.
Et c'est où ça?
À Cholet. Tu sais, un endroit qui se trouve un peu dans le sud d'Angers.
Bon, il y avait des collabos
Non, il n'y avait pas de collabos de Bordeaux. Non, ils étaient tous restés là-bas. Non. Et en fait, le retour de cette personne qui était dans la librairie me disait que ça marchait très très bien, quoi, et que ça avait un bel impact. Voilà.
Oui, puis en plus là, on arrive dans la période de Noël.
Oui,
parfait pour faire un cadeau.
Parfait pour faire un cadeau. Là, moi, je trouve. Voilà.
Tout à fait.
Nous, on n'a pas d'intérêt, mais on le dit, c'est bien. Quand même.
Et d'ailleurs, François. Bon, ce sera François finalement, Bauer ce soir.
François, Jean-Claude, Sébastien.
Dédicace ce soir.
Ça va être dur.
Mais pour tous les gens que ça intéresse, on est vendredi à partir de 18h, une bonne partie des dessinateurs, moi-même et François Comte, à la librairie Richer, où on va pouvoir du coup échanger avec les lecteurs et puis après faire une séance de signature.
Très bien.
Est-ce que vous serez au festival de BD d'Angers?
Oui.
Oui. En GBD.
En GBD. Normalement, oui.
Oui, oui, on y sera le 7 et 8 décembre. Ouais. Le 7 décembre, j'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait même une table ronde sur la bande dessinée. Et il y aura aussi une exposition de planches originales. C'est-à-dire qu'au Musée des Beaux-Arts, pendant un an, il y a les panneaux didactiques. Et en plus, au centre de congrès, le 7 et 8 décembre, il y a les planches des différents dessinateurs, dont celle de Jean-Claude.
De François.
Sébastien Bauer.
Donc il y a une prolongation aussi, il y aura une seconde vie après pour la bande dessinée, cette fois-ci donc dans des expositions.
Tout à fait.
Et l'exposition restera sur Angers, sera itinérante un petit peu ou pas, je sais pas, est-ce qu'elle descendra jusque dans le Choletais éventuellement,
ou Saumurois,
ou dans le Saumurois,
le Segréen.
Alors elle remontera dans le Segréen. Je sais pas, mais l'idée, effectivement, clairement, je me suis accaparé le projet, le livre, et l'idée, c'est vraiment de le faire vivre le plus possible pour justement que les plus jeunes d'entre nous, et puis même les moins jeunes d'ailleurs, s'approprient l'histoire angevine, qui est super riche. Mmh. Donc au travers de la bande dessinée, mais aussi de l'exposition qui pourrait être itinérante.
Donc ça pourrait être une idée peut-être pour les scolaires aussi en même temps, parce que finalement il y a des choses à apprendre.
Tout à fait, tout à fait.
À mon avis, ça va être un succès en librairie, mais aussi dans les CDI,
oui, dans les CDI,
centres de documentation des collèges et des lycées dans le département.
C'est clair.
Une petite pause musicale, Seb.
Oui.
Allez, on reste dans le jazz avec Jeremy Steig dans Monde Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Oh,
Voilà, vous êtes toujours sur Radio G dans Bande Geek Mafia autour de la BD Angers de Domnacus au Roi René.
Oui, alors il y a un auditeur, pour ne pas le nommer Adrien, qui nous a envoyé un petit message pour nous faire une petite précision sur Mitra. Une précision tout simplement pour les geeks, hein, que Mitra a été utilisé justement par Tolkien pour nommer le Mithrandir et aussi pour nommer Gandalf. Donc voilà, pour tous ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, bah, ça vous fera un petit peu écho. Donc on va revenir maintenant sur la bande dessinée, sur le découpage. Alors, comment a été fait le découpage, finalement, comment a été choisi, parce que je pense qu'on peut pas tout dire non plus, donc vous avez dû mettre de côté quelques sujets. Si vous pouvez nous dire là-dessus, justement.
Oui, donc avant même d'écrire de commencer à écrire vraiment le premier scénario de ce premier tome, on savait en fait que cette bande dessinée sur Angers sortirait en deux tomes, contiendrait deux tomes, et qu'on aurait donc dans chaque tome 9 chapitres. Donc on avait 18 thématiques à aborder. Et bien évidemment que sur une histoire de plus de 2000 ans, si on commence avec Domnacus, il fallait faire des choix, et choisir c'est renoncer. Donc bien évidemment qu'on a dû écarter des thématiques qu'on avait dans un premier temps envisagées. Et pour ne serait-ce que pour prendre un exemple bien précis, sur le Roi René, là dans la bande dessinée, ce qu'on décide d'aborder, c'est la mort du lionnier du Roi René. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de notre bon Roi René, le château en fait ressemblait aux eaux de Douai-la-Fontaine. Il y avait des dromadaires, des lions, des panthères, des guépards. Et donc il avait le Roi René avait quelques personnes qui s'occupaient de tous ces animaux, dont un lionnier. Et un jour, il y a un de ces lionniers qui a été attaqué par un guépard. Et donc je raconte pas comment est-ce que ça se termine, mais en tout cas, c'est cette histoire qu'on a racontée. Alors qu'initialement, moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était la mort du Roi René, qui elle aussi est super intéressante, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est mort paisiblement à Aix-en-Provence, mais dans son testament, il avait bien stipulé qu'il voulait être enterré à Angers. Sauf qu'en fait, à Aix-en-Provence, on ne voulait surtout pas redonner la dépouille du Roi René aux Angevins. On s'est dit, tiens, si on pouvait installer 2-3 kebabs à côté de la dépouille, ça va faire marcher le commerce. Et donc, on l'a enterré à Aix-en-Provence. Et donc, son épouse qui voulait quand même finalement faire plaisir à ce bon René, de nuit en fait quelques mois plus tard a déterré le corps et l'a mis dans un tonneau de vin et il est revenu comme ça jusqu'à Angers. Et ça, c'est une histoire fabuleuse et c'est ça que je voulais raconter. Mais finalement, comme cette histoire se passait plus à Aix-en-Provence qu'à Angers, on s'est dit bon, on va plutôt raconter autre chose. Mais enfin voilà, il y a plein de choses comme ça passionnantes à découvrir dans cette bande dessinée.
Alors on précise pour nos amis société protectrice des animaux, aucun animal n'a été maltraité dans la bande dessinée.
Ça faut qu'ils achètent pour le savoir.
Oui, non, mais on précise hein, quand même. Donc voilà. Le prochain tome, donc on va partir de où pour aller vers où à peu près?
Alors, dans le découpage initial, on a décidé de commencer ce second tome avec un personnage que connaissent beaucoup de lycéens angevins, qui est Joachim Dubellay.
Ah oui.
Voilà. Et là où j'ai fait mes études d'ailleurs, un super monastère d'ailleurs initialement, une abbaye d'ailleurs. Et puis on terminera avec Jean Lursa et ses célèbres tapisseries exactement. Voilà, c'était ça l'idée initiale. Alors après, ça peut encore changer, mais c'est comme ça qu'on l'avait envisagé initialement en tout cas.
Est-ce qu'on parle de la clé?
Ah.
Bon, on va en parler parce que c'est quand même Jean-Claude Sébastien.
Il est intervenu, donc tu es intervenu dans chaque.
En fait, je suis pratiquement un des premiers à avoir dessiné cette histoire. Enfin, je veux dire le chapitre. Et donc j'ai un peu terminé avant les autres. J'ai pas eu le choix, mais j'ai terminé un peu avant les autres. Et j'ai dû du coup inventer. Je sais pas si on peut dire ça.
Si.
Inventer.
Proposer.
Proposer. Enfin, à la demande quand même du scénariste, mais ce qui sert de fil conducteur, quoi. Et c'est une clé.
En fait, voilà, il fallait qu'il y ait un lien.
C'est
un
le
lien.
Maître des clés.
Ouais.
Le maître des clés.
Passe-partout.
Et au départ, ce qui était amusant, c'est que j'ai dessiné une clé. Je me suis servi des éléments qu'on m'avait donnés pour la faire. Et entre-temps, elle a changé cette clé, puisqu'elle était un peu, pour l'historien, pour l'archéologue qui est François Comte, un peu trop moyenâgeuse.
Médiévale,
oui. Donc médiévale. Et donc, du coup, j'ai été obligé de la transformer. Donc
Julien, tu disais qu'il fallait donc un lien, c'est ça, hein?
Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y a un lien entre chaque chapitre. Et ce lien, c'est un objet. Alors, j'aurais souhaité avoir un objet archéologique qui existe réellement et qui puisse être ce lien entre les différents chapitres. Malheureusement, comme la première histoire se passe au temps de Dumnacus, ben, on n'avait pas d'objet qui pouvait se transporter comme ça de siècle en siècle. Et donc, on a créé ce qu'on appelle cette clé de Dumnacus. Puis on va en parler un petit peu, parce que l'objet a beau être pure invention de Jean-Claude Sébastien Bauer, François. En fait,
ça, c'est le fil conducteur de l'émission.
C'est hein. Ça.
Depuis le début. Tout à l'heure, oui, ça évolue avec le temps. Enfin,
il s'inspire en fait de ce qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de la croix de Lorraine, qui a été célébrée par le général de Gaulle, mais qui au départ était en fait la croix d'Anjou. Et en fait, elle est devenue croix de Lorraine parce qu'en fait, ce bon roi René avait des terres en Anjou, mais aussi en Lorraine. Et puis la clé, c'est aussi le symbole de la ville d'Angers. Donc on s'est dit, une clé plus la croix d'Anjou, allez hop, on va inventer la clé de Dumnacus.
Mais moi, je connaissais pas du tout l'histoire. Enfin, l'histoire.
Mais peut-être que dans quelques siècles, on retrouvera quelque part cette fameuse clé. Qui sait ?
À côté d'un culte de Mitra,
c'est
éventuellement.
Hein ? Avant JC,
c'est
après
ça.
JC.
Ouais.
Après Jean-Claude.
Avant Jean-Claude, après Jean-Claude, oui, tout à fait. C'est...
Ah, non, c'est tout. C'est aussi un fil conducteur. C'est...
Pas mal. Bon,
et voilà. Donc, Jean-Claude, sur le prochain tome, est-ce que tu vas participer ?
Non, je n'interviendrai pas sur le prochain, malheureusement, pour Julien. non, je suis occupé à un autre projet très, très important pour moi, qui fait référence à un moment de mon existence, c'est-à-dire que j'ai eu le privilège de suivre le procès Barbie.
C'était
un privilège quand même.
C'est un privilège.
Et même si c'était un privilège douloureux, je l'ai suivi et j'ai gardé en mémoire plein de choses et j'ai entendu beaucoup d'horreurs et j'ai voulu, à la suite. De ce procès. J'ai fait une exposition l'année dernière ici à Angers aux archives départementales et suite à cette exposition on m'a incité à aller beaucoup plus loin et du coup je suis en train de réaliser une bande dessinée sur le parcours de Klaus Barbie. Donc là aussi c'est un fait historique et ce qui est important c'est de raconter un peu pourquoi il est passé au travers de et au travers des mailles du filet et qu'il n'a jamais été pris. Et donc c'est ce qu'on essaye avec un scénariste qui s'appelle Frédéric Brémaud de raconter ce parcours. Voilà. Donc gros travail, sortie prévue 2021. Donc on en est encore au storyboard là pour l'instant.
D'accord. Donc une conception qui est
très longue.
Qui est très longue.
Puis, après, elle sera comme pour cet album sur Angers, soumise elles seront mises dans les mains de certains historiens. On a le soutien de Serge Klarsfeld, qui est quand même un personnage important
de l'histoire,
qui est aussi à l'origine de l'arrestation de Klaus Barbie. Et puis d'autres personnes autour. On a le soutien de ce procureur qui avait fait une conférence donc ici à Angers, qui s'appelle Jean-Olivier Vioux, qui était à l'époque substitut du procureur général de Lyon, et qui est d'accord. À l'origine de l'organisation totale du procès. Enfin, c'est lui qui a mis en place tout ça. Et donc tout ça, c'est une aventure, et à la fin de cet album, il y aura aussi une partie historique documentaire qui viendra appuyer tout ce qu'on aura raconté. Voilà.
Donc beau projet.
Un beau projet quand même.
Énormément, ouais.
Et pour Julien, alors, les projets, parce que là, on a parlé beaucoup de la bande dessinée ce soir, ça a l'air d'être plutôt bien parti pour elle, il n'y a pas de problème. Quel projet?
Oui, les projets, enfin, il y en a toujours plein. Alors, il y a les projets qui voient le jour très vite. Et puis, c'est ce qu'on disait en fait avant de prendre l'antenne. C'est-à-dire que là, finalement, on parle d'un album où moi, j'ai terminé il y a pas mal de temps déjà. Donc là, je vais me plonger dans le tome 2. Et puis, comme je fais aussi des livres d'histoire, enfin, des livres jeunesse, parce que je suis papa de deux petits garçons, je pense que ça va revenir là dans pas longtemps, l'écriture de livres jeunesse. Ça manque un petit peu.
Ça manque un petit peu.
Voilà.
Bah, c'est vrai qu'après un sujet historique, un petit peu plus de légèreté peut-être aussi.
Exactement. J'aime bien changer.
Oui, parce que, alors, pour tout dire, même si je n'avais pas tout préparé, là, j'ai rapidement quand même cherché deux, trois trucs. J'ai quand même trouvé un petit peu de trois choses extrêmement intéressantes. Alors, j'ai vu, donc il y a pour des livres pour jeunesse, mais il y a aussi d'autres bandes dessinées qui tournent aussi beaucoup autour des domaines judiciaires.
Oui, en fait, c'est un hasard d'ailleurs, enfin c'est un hasard qu'on en parle ce soir. Mais effectivement, une de mes premières collaborations en bande dessinée, c'était pour les éditions De Boré, qui étaient spécialisées non pas dans la bande dessinée, mais eux dans les affaires criminelles en général. J'ai intégré cette collection. Il doit y avoir 10 titres, et sur les 10 titres, j'ai dû en scénariser 8 ou 9. Voilà, donc ça va, l'affaire Seznec, Ranucci, les sœurs Papin. Enfin voilà, elles sont.
Marie Besnard aussi, qui n'est pas très loin.
C'est ça, qui est de Loudun.
Oui, mais c'est pas très loin. Donc...
Tout à fait, oui. Oui, c'est à une 3/4 d'heure d'ici. Donc voilà, j'ai moi aussi un petit peu navigué dans ces eaux troubles. Alors, contrairement à Jean-Claude, moi j'ai fait un travail plus d'historien en me plongeant dans les archives, et j'étais pas au cœur de l'histoire comme lui a pu l'être. Même si du coup, en fait, à la suite de cette collection, j'ai fait un bouquin avec un avocat pénaliste en juin qui s'appelle Pascal Rouillet. C'était la robe et la plume, et en fait ça, c'était des affaires beaucoup plus récentes, et j'ai notamment assisté à des procès pour écrire ce bouquin. Et donc quand Jean-Claude dit que c'était un travail remarquable ce qu'il a fait, mais méprisant, je dois pouvoir le comprendre, parce que moi qui ai assisté à un procès d'un meurtre, on parlait que d'une personne finalement, c'était déjà très très lourd. Alors parler des entendre parler à longueur de journée pendant très longtemps,
10 ans,
de Barbie, ça facilement, doit être très compliqué. Ouais.
Non, c'est très lourd.
C'est très lourd. Puis, très
le boucher de Lyon.
Le boucher de Lyon,
en particulier pour lui, mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, il y a Papon, dont on a parlé tout à l'heure.
Papon, ouais.
Je l'ai pas suivi longtemps à Bordeaux. J'ai pas trop collaboré là-bas. non, mais voilà. Quoi.
Mais si, on va vous remercier infiniment d'être venu nous voir ce soir. Hein.
C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus.
Et puis on rappelle aux auditeurs, aux auditrices, donc cette bande dessinée, Angers de Domnacus au roi René, c'est le tome 1, donc le scénario est de Julien Moka. Les dessins de, alors entre autres Jean-Claude Bauer, mais toute une pléiade de dessinateurs locaux. C'est aux éditions Petit à Petit, et ça coûte 16,90€, je crois.
C'est ça.
Et voilà. Je dis, ça les vaut sans aucun problème, acheter pour Noël. Beau petit cadeau.
Merci beaucoup.
Merci à vous, à la semaine prochaine. Et on se quitte avec un peu de musique. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Bop. dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a flyer losing, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Pouring steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip Fantasia.